tous. À moins d'une heure de la remise de non pas un, mais deux prix Nobel de littérature. Retour sur l'œuvre d'une des plus grandes écrivaines du XXe siècle, injustement oubliée par l'Académie suédoise. L'auteur de Mrs. Dalloway, Orlando ou encore Les Vagues, dont Emmanuel Favier, notre premier invité, raconte la jeunesse dans Virginia chez Albin Michel. Mais lu, relu et adoré par plusieurs générations de lectrices et de lecteurs, comme l'écrivain éditeur Charles Dantzig, qui consacre à Virginia Woolf une notice et plusieurs références dans son dictionnaire égoïste de la littérature mondiale publié chez Grasset. Charles Dantzig qui restera avec nous pour la seconde partie de la Grande Table. La littérature raconte-t-elle toujours le monde? On en parlera avec lui d'ici 13h30. Une Grande Table à suivre tout de suite sur France Culture ou à écouter plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
Grande Table, Olivia Gesbert.
C'est presque le tome 2 après le dictionnaire égoïste de la littérature française. Il y a maintenant le dictionnaire égoïste de la littérature mondiale. Écrivain, éditeur et producteur de personnages en personne, le dimanche à 15h sur France Culture, Charles Dantzig, bonjour.
Bonjour Olivia.
On vous savait plutôt James Joyce, on vous découvre Virginia Woolf. Quel Woolfien êtes-vous ?
Je suis un Woolfien Joycien, ce qui est très rare, car comme vous savez, Virginia Woolf a eu horreur d'Ulysse. Elle trouvait que c'était un roman vulgaire et grossier. Alors après, on peut faire des rapprochements, c'est que l'un et l'autre sont des écrivains d'œuvres et très costauds. Moi, je crois que contrairement à l'idée qu'on peut avoir d'elle très souvent, Virginia Woolf n'est pas un lys penché au bord d'un étang qui serait timide et souffroteuse. C'était une femme qui a écrit une œuvre, et une œuvre très conséquente, et pour écrire une œuvre et par-dessus le marché être éditrice, car elle était éditrice aussi, il faut être quelqu'un de sacrément costaud. Et je crois que c'était une costaude.
Virginia, c'est l'enfant et l'adolescente avant Woolf, avant que l'écriture ne fasse qu'une avec l'écrivaine, poète, dramaturge et désormais romancière, Emmanuel Favier, bonjour.
Bonjour.
C'est donc aussi de votre Virginia à vous qu'on va parler aujourd'hui. Comment le contact, la rencontre s'est faite entre vous et Virginia Woolf ?
Elle s'est faite tardivement. J'ai un panthéon littéraire très masculin, donc je suis venue à la littérature écrite par des femmes très tard, et je pense que j'avais besoin d'être prête, et je pense que j'ai eu besoin d'être moi-même romancière pour réellement rencontrer Virginia Woolf et aussi de faire ce chemin en compagnie de Virginia Steven, donc Virginia avant Woolf, pour être en mesure de faire ample connaissance avec la romancière si génial.
C'est le jour des confessions et le jour des hybridations, visiblement avec vous deux, Charles Dantzig et Emmanuel Favier. Vous parliez de votre panthéon masculin en 1938, quand l'Académie suédoise récompense une Américaine plutôt que Virginia Woolf. Beaucoup lui en veulent à cette Académie de ne pas avoir fait ce choix aujourd'hui. Elle l'aurait pourtant mérité son Nobel en 1938. Le principal de sa carrière d'écrivaine, de ses œuvres est déjà publié et c'est déjà une grande, grande écrivain ou écrivaine.
Oui, alors je précise que la semaine dernière, Virginia Woolf a reçu à titre posthume le prix Nobel qui est remis par la Maison des Littératures Passaporta à Bruxelles.
Et qui entend réparer justement les erreurs et les oublis plus de l'histoire, surtout ceux de l'Académie. Elle s'est vue décerner ce prix à Bruxelles.
Tout à fait. Et le prix a été remis à Virginia Nicholson, qui est la petite nièce de Virginia Woolf, et qui a fait un discours évidemment éminemment britannique et drôle sur le fait qu'elle pouvait enfin sortir de l'ombre dans laquelle l'avait mise sa grand-tante depuis des années, puisqu'elle est même écrivaine. Oui, évidemment, c'est un prix mérité. Bon, après, il y a toute la question de la parité dans les remises de prix. C'est vrai que le prix Nobel a quand même assez tôt récompensé une femme, dès 1909, je crois, si je n'ai pas de bêtises. Je me tourne vers mon voisin.
On vérifiera.
C'est le mal à Gerloff. Mais oui,
alors est-ce qu'avec Lagerlöf, ils ont récompensé une femme ou une suédoise, c'est la question.
Oui, c'est vrai.
Mais en 38, d'ailleurs, c'est une femme qui a aussi le Nobel, une américaine.
Oui, il y en a eu plusieurs avant, mais effectivement. Bon, après, moi, j'ai pas d'analyse à fournir sur.
En même temps, il récompensait peu de femmes, parce que, hélas, peu de femmes écrivaient aussi. C'est-à-dire, comme vous, quand vous parliez de votre panthéon qui était masculin, c'était un peu la force des choses. Enfin, et d'ailleurs, on parle sous les auspices de Virginia Woolf, qui a écrit une pièce à soi. On traduit ça en français, une chambre à soi, avec, c'est une traduction un peu erronée, à mon avis. Mais enfin, c'est bien elle qui nous a dit qu'il fallait que les femmes aient un bureau à elles pour pouvoir se recueillir et écrire. Et on leur donnait pas ça. Donc, le panthéon était, je crois qu'on doit beaucoup ça à l'atroce 19e siècle. Vous savez, c'était un siècle velu, un siècle d'hommes et qui a beaucoup produit de littérature masculine.
Voilà, 1938, c'est l'américaine Pearl Buck qui obtient le prix Nobel. Hein, voilà, ce que beaucoup disent aujourd'hui. La petite nièce de Virginia Woolf, Virginia Nicholson, qui lors de la remise de ce prix Nobel, prix alternatif visant à reconnaître les talents de cette écrivaine aujourd'hui en 2019, a dit, selon les Inrock qui retranscrivent ses propos, elle est partout maintenant, Virginia Woolf, sur des mugs, des poupées. J'ai dû mettre mon veto quand on a voulu faire une Barbie à son effigie. Frida Kahlo a failli, ou a eu. Alors voilà, Virginia Woolf aurait pu. Comment comprendre néanmoins ce retour de notoriété, cette référence permanente dans la bouche de nombreuses écrivaines, romancières aujourd'hui et écrivains, Charles Dantzig. Pourquoi elle nous parle autant à cette époque-ci?
Elle parle probablement, moi je ne peux pas parler au nom des femmes évidemment, mais elle parle évidemment au nom de ça, à cause de, en particulier du livre dont je viens de parler, qui était Une chambre à soi ou une pièce à soi, que c'était une féministe avant l'heure, et je pense qu'elle parle aussi particulièrement dans notre époque, parce que nous vivons une époque singulièrement violente, et que Virginia Woolf est aussi une femme qui a traversé des périodes très violentes avec une grâce qu'on n'a plus maintenant. Et donc, en fait, je pense qu'on va vers Virginia Woolf aussi, comme disait Picasso du communisme, comme à une source. C'est-à-dire que elle nous montre qu'on peut réagir, je mets à part son suicide évidemment, mais à des périodes terribles, sans devenir soi-même un pitbull. Et je pense que c'est aussi un modèle de ce point de vue-là.
Oui, et c'est vraiment un modèle très important pour les femmes écrivaines, ne serait-ce que parce, évidemment, à propos des textes féministes dont vous parlez, et on est dans une période éminemment de retour à ces questions, évidemment. Une pièce à soi, Trois Guinées aussi, dont on parle moins, mais qui est un livre absolument brûlant d'actualité, qu'il faut absolument relire, qui est très pragmatique. Mais aussi parce que, je pense, en tant qu'écrivaine femme, donc on a vraiment l'idée d'une grande sœur qui nous accompagne sur ce chemin qu'est l'écriture. Enfin, moi, c'est le projet de mon livre, c'est vraiment explorer ce que c'est que de devenir écrivaine quand on est une jeune fille, en l'occurrence dans ce 19e finissant et victorien, effectivement très patriarcal. Donc, il y a vraiment la notion d'accompagnement qui est aussi favorisée dans son écriture même, au-delà de la voix qui s'exprime dans les journaux, qui est très drôle, qui met en confiance, finalement, contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce qu'on a souvent peur de Virginia Woolf. Il y a une proximité qu'on peut trouver dans sa littérature et le sentiment qu'elle s'adresse à nous. Et je pensais que c'était, jusque-là, je pensais que c'était parce que c'était une femme et que j'étais une femme, mais des hommes m'ont témoigné de la même sensation. Elle s'adresse vraiment à notre oreille.
Qui a peur aujourd'hui encore de Virginia Woolf?
Bien probablement les brutes. Il y a aussi une chose, c'est qu'elle a mis du temps à arriver à la très grande notoriété, parce que c'est un écrivain en cela qui ressemble à mon sens à Proust, c'est-à-dire qu'elle a un rythme très personnel, un rythme très à elle, et que quand on entre dans un roman de Virginia Woolf, en particulier ses romans, il faut prendre une respiration assez lente, prendre son temps, et c'est des écrivains qui réclament de l'attention, donc c'est des écrivains qui ne jaillissent jamais dans le grand public immédiatement, parce qu'il faut simplement du temps et de l'attention.
Marie Dariussecq, Geneviève Brisac, Agnès de Sarthe, ou encore la femme de théâtre Katy Mitchell loue les talents d'écrivaine de Virginia Woolf aujourd'hui encore et sa personnalité libre, forte à sa manière, luttant contre les stéréotypes de l'époque. Katy Mitchell qui vient de mettre en scène avec les comédiens de la Schaubühne de Berlin son Orlando au théâtre de l'Odéon. Pensez comme une figure iconique, queer, on voit Virginia Woolf, objet d'influence et de détournement. On en écoute un extrait.
Bald hatte er 10 und mehr Seiten mit Versen gefüllt. Er schrieb augenscheinlich fließend, aber er schrieb abstrakt. Er beschrieb soeben, wie alle jungen Dichter dies stets tun, die Natur. Ihr Anblick verstörte ihn, ihr Anblick belebte ihn. die Vögel und die Bäume. Und sie entfachten seine Liebe zum Tod. Er ging sehr schnell durch Farne und Weißdornsträucher bergan, Rehe und wilde Vögel aufscheuchend. Orlando liebte von Natur aus abgeschiedene Orte, den weiten Ausblick. Und er liebte es, sich zu spüren, für alle Zeit in Ewigkeit.
Le Orlando de Katie Mitchell à l'Odéon, en allemand, surtitré en français, était à voir jusqu'au 29 septembre. C'est terminé pour l'instant, mais pas de regret pour vous, Charles Dantzig, puisque vous aviez vu la version de Robert Wilson avec Isabelle Huppert. Orlando, en quoi est-ce un texte important? Qu'est-ce qu'il dit de Virginia Woolf?
Je pense qu'au-delà de la question du genre comme réflexion théorique, c'est vraiment l'idée de l'habilité de l'identité, du fait qu'on est un et l'autre, qu'on est homme et femme, certes, selon les moments. Orlando, au bout d'un moment, parvient à une espèce d'agilité dans le passage d'un sexe à un autre. Mais plus largement, quand on lit Virginia Woolf, on comprend qu'il y a cette notion d'altérité qui sans cesse vous transforme. Et donc c'est sa manière d'écrire, hein, ce qu'on appelle le flux de conscience, où elle passe d'une conscience à l'autre, dit beaucoup ça, la multiplicité des mois. Et je crois que c'est vraiment ce dont parle Orlando en premier.
Et cette mise en scène de Katie Mitchell insiste, appuie sur la métamorphose, hein, sur la fluidité des identités aussi.
Je parlais de Proust tout à l'heure, et là aussi je trouve que Virginia Woolf lui ressemble, parce que quand on dit que Virginia Woolf était une audacieuse, une avant-gardiste du queer par exemple, ça n'est pas vrai. Parce que Virginia Woolf, comme tout le monde sait, était lesbienne, mais elle était mariée. Elle n'a jamais fait son coming out. Orlando, dont nous parlons, est dédié à V. Sackville-West. Et V va pour Vita, c'est-à-dire la femme avec qui elle vivait et dont on peut dire qu'elle n'a pas osé écrire le prénom. Donc, il y avait aussi des précautions et des prudences chez Virginia Woolf, et c'est nous qui lui avons rendu, mais je pense à très juste titre, ce qu'elle prenait la précaution un peu de dissimuler de la même façon exacte que Proust a dissimulé toute sa vie son homosexualité, que, en quelque sorte, nous lui avons rendu. Donc, en fait, quand on dit ça de Virginia Woolf, on exagère, mais dans le bon sens.
Voilà, il y a un film qui est sorti aussi cet été, Vita et Virginia, sorte de biopic qui racontait cette relation passionnelle qu'il y avait entre ces deux femmes, entre Virginia Woolf et Vita Sackville-West. Revenons-en à votre Virginia, Emmanuel Favier, pour comprendre aussi l'enfance de l'art. Pourquoi revenir sur ce temps? Qu'est-ce que vous vouliez éclairer? En vous lisant, on retrouve déjà les angoisses, le suicide qui la travaillait, des frères aux mains baladeuses. Vous trouvez aussi une mère qui vit dans le souvenir de son premier amour, belle et mélancolique. Son visage est un refuge pour les âmes errantes, écrivez-vous, pour quiconque est incertain de sa propre réalité. On apprend aussi que Virginia aime par-dessus tout cette femme, la maison. Elle est comme une chape de plomb, le rêve est ailleurs, dans les livres, les musées. Leslie, son père, aime sa fille d'un amour victorien, peut-être même davantage, mais sans aller jusqu'à la prendre au sérieux. C'est une famille désagrégée dans laquelle la petite Virginia, qui va grandir, va essayer de trouver sa place. 1896, c'est une date importante sur laquelle vous revenez. Sa mère meurt. Comment va-t-elle dépasser cette perte ?
Il y a un mécanisme de survie qui se met en place. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est de comprendre, d'explorer. Il ne s'agissait pas ni de faire une biographie de Virginia Woolf. D'ailleurs, ce n'est pas une biographie de Virginia Woolf, c'est un livre de littérature sur un personnage qui s'appelle Virginia Stephen, dont nous, lecteurs, savons qu'elle deviendra ce grand mythe de la littérature. Mais pour moi, ce qui m'intéressait, c'est comment on dépasse, comment on s'approprie, comment on transforme, on métamorphose, on alchimise toutes ces souffrances dont vous parlez, les deuils, les incestes, évidemment le deuil de sa mère qui est un passage d'autant plus violent qui correspond aussi à l'abandon de l'enfance incarné un petit peu par les séjours estivaux dans les Cornouailles et donc avec cette lumière énorme qui entre à tous ses livres. Donc comment elle dépasse, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que l'écriture apparaît vraiment de façon très nette comme un mécanisme de survie. L'écriture qui sauve, qui console, dont parlent souvent les écrivains et qui m'importe. elle joue un rôle énorme dans la survie de Virginia à ce moment-là.
C'est une addition de mécanismes de survie. On a l'impression de période à laquelle elle va tenter de réagir. Elle a ce spectre de la mort qui est toujours quelque part en elle, et pourtant elle vit, elle survit. À quoi ça tient ?
C'est le grand mystère que j'ai essayé de, disons, d'approcher par nuance, par touche intuitive surtout. Vraiment des mécanismes d'intuition qui ont présidé à l'écriture de ce livre. Elle a quand même reçu... Elle a eu plusieurs chances qui peuvent être perçues comme des malchances au départ. C'est-à-dire que je pense que le fait que son père lui ait ouvert sa bibliothèque en lui interdisant l'instruction, l'éducation, la formation universitaire, a été une grande frustration pour elle, mais lui a permis de développer une voix très singulière très vite. Bon, elle met un certain temps à publier, elle publie seulement à l'âge de 30 ans son premier roman, publié par son demi-frère en plus. Mais elle développe, on voit dans les lettres et les petits textes, quelque chose de très personnel très tôt. Et ça, je crois que c'est finalement, elle a été sauvée de l'université très vite. Ensuite, la mort de son père, elle le dit elle-même, que la mort de son père est ce qui lui a permis d'écrire, qu'elle n'aurait pas écrit si son père avait survécu. Donc à 22 ans, et c'est là où je m'arrête, quelques mois après la mort de son père, elle envoie son premier texte. Ensuite, il y a évidemment tout un environnement qui peut être pesant, mais qui est aussi aidant. Et puis il y a Léonard, son mari. Voilà, je ne traite pas cette période, mais c'est un personnage absolument indispensable pour l'histoire de la littérature.
Et c'est un personnage en personne, Charles Dantzig. C'est un personnage vraiment particulier, cette Virginia Woolf. Vous l'écrivez ainsi, Emmanuel Favier, à 20 ans, elle ne se reconnaît ni dans la compagnie des hommes, ni dans celle des femmes. Le besoin d'intimité vorace de Virginia échoue sans cesse sur la rive de son prochain, rabattu par la vague de son égoïsme. Les hommes sont inhibants et condescendants, ils ne croient pas en l'autre, surtout si l'autre est une femme. Les femmes, elles, n'ont pas fait la moitié du commencement du chemin pour croire en elle-même, mais comment pourrait-elle croire en leurs semblables, les prendre au sérieux comme les hommes font entre eux ? Autant de questions que vous soulevez et auxquelles vous apportez par petites touches des réponses, Emmanuel Favier, dans ce livre-roman autour de la personnalité de la jeune Virginia. Elle a un tempérament littéraire, c'est peut-être quand même ça qui va la sauver avant tout, Charles Dantzig. À chaque pas, le monde accroche son désir désespéré de dire, dites-vous Emmanuel Favier. Elle veut dire, elle veut écrire le monde.
Elle veut dire, elle tente de se sauver par ça. Je suis pas tout à fait sûr que la littérature ne soit qu'une consolation dans la vie. Y a une phrase très belle de Jean Genet qui dit « Il n'est pas d'artiste sans qu'un grand malheur ne s'en soit mêlé ». Je pense hélas qu'il a raison, mais il ne faut pas réduire la littérature à un pansement, c'est-à-dire aussi un acte de désir créateur dans la littérature qui n'est pas seulement un narcissisme en quelque sorte. D'ailleurs, ça me rappelle, et vous parliez, Olivia, du comportement des hommes. Vous savez que Virginia Woolf était donc éditrice et qu'elle était l'éditrice en Angleterre. C'était la première éditrice des traductions de Sigmund Freud en Angleterre. Et quand Freud s'est exilé en Angleterre, déjà malade, elle est allée avec Léonard, son mari, avec qui elle dirigeait sa maison d'édition, rendre visite à Freud, et Freud a fait un présent à Virginia Woolf, et quel était ce présent ? C'était un narcisse. Ce qui était à la fois très spirituel et très injuste, parce qu'en même temps, elle était éditrice et elle travaillait pour les autres. Et je pense que ce qu'elle a fait, si je peux me permettre une comparaison toute proportion gardée, je crois que, puisque je fais la même chose qu'elle, c'est que je suis écrivain et éditeur, je crois qu'un écrivain devient parfois éditeur, et je crois que c'était son cas comme le mien, pour éviter de devenir fou. Car la littérature est une chose très pénible, douloureuse, qui écarte de la vie. Et un écrivain qui fait la démarche d'être éditeur, c'est aussi une question, c'est premièrement une question de transmission, mais c'est aussi, je pense, pour éviter de rester enfermé dans son moi. Et je pense qu'elle s'est sauvée comme ça, jusqu'au moment où évidemment elle s'est tuée, mais elle a quand même résisté assez longtemps.
Virginia Woolf avec l'écrivain et éditeur Charles Dantzig et la romancière Emmanuel Favier jusqu'à midi et demi. France Culture, il est midi 20.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Vous utilisez tous les deux l'image de l'eau pour la qualifier, la métaphore aquatique pour décrire soit son écriture, soit la femme qu'elle était. En quoi, Charles Dantzig, pour vous, Virginia Woolf était-elle aquatique, pour reprendre votre terme ?
Pour bien des raisons. Pour commencer, j'ai remarqué qu'un des adverbes qu'elle emploie le plus fréquemment, et la fréquence des mots chez un écrivain n'est pas tout à fait anodine, c'est vaguement, vaguely. Elle écrit très très souvent vaguement. D'ailleurs, elle a écrit les vagues, comme nous savons. Et elle tente de donner, je pense, quelque chose d'aquatique dans le sens où chez elle, les choses ne sont jamais liées, et je pense à ces phrases-là, par en particulier des conjonctions de coordination temporelle. Si on peut être un peu sérieux deux minutes et parler du travail d'écriture, une chose très frappante, c'est qu'il n'y a pas de proposition temporelle dans les romans de Virginia Woolf. Il n'y a jamais 3 semaines plus tard ou 2 heures après tout Mrs. Dalloway qui se passe durant une journée. À aucun moment il ne nous est dit il était telle heure, juste on peut le remarquer par des tintements de Big Ben dans les rues. Mais elle supprime les propositions temporelles, ce qui donne à son œuvre cet aspect que moi j'estime aquatique, c'est-à-dire quand on entre dans Virginia Woolf, c'est une plongée sous-marine où le temps est aboli. Et c'est ça, je crois, qui la caractérise très fortement.
Les vagues, magnifiquement mises en musique aussi par le compositeur Max Richter. Vous parlez-vous d'une langue liquide.
Oui, je trouve la comparaison entre la liquidité du temps et l'omniprésence de l'eau du thème de l'eau et de l'image, de la forme aquatique dans ces livres est très juste. Il y a une impossibilité d'attraper les événements, d'attraper les histoires, d'attraper les consciences qui renvoient à ce qui me semble être une grande ambiguïté de l'eau elle-même, qui est à la fois extrêmement libre et extrêmement contrainte, qui est à la fois très angoissante, puisque c'est l'eau dans laquelle on peut s'enfoncer, bon évidemment on pense à son suicide, et à la fois l'endroit de la libération. Un livre comme Vers le phare, je trouve, parle beaucoup de cette ambiguïté, et qui renvoie, je trouve, moi, à l'enfance, pour elle. Et ce dont je parlais, donc de cette image des étés en Cornouailles qui sont liés à la mer, à l'espace, et qui sont a priori des espaces de
refuge,
de grande liberté, de grand refuge, de grande consolation, et en même temps qui sont aussi les lieux de découverte de ce que l'existence est désespérante, de ce que l'autre échappe toujours, puisque c'est le rapport à la fluidité, elle est aussi dans le rapport à l'autre qui est essentiel.
Pour cerner cette Virginia, Emmanuel Favier, vous avez travaillé à partir de photos vues à la National Portrait Gallery. La méthode est imparfaite, dites-vous, mais elle redonne vie aussi à une époque. Et elle permet d'explorer ces fameux mouvements de l'esprit de Virginia. Et puis il y a sa voix, un seul enregistrement à la BBC. On en écoute un extrait.
Words, English words, full of echoes, les mots anglais sont pleins d'échos, de souvenirs, d'associations. Ici et là, ils ont été sur les lèvres des gens, dans leurs maisons, dans les rues, dans les champs, pendant tellement de siècles. Et voilà une des principales difficultés à écrire aujourd'hui. Le fait qu'ils soient associés à tant d'autres significations, d'autres souvenirs, qu'ils aient contracté tant de mariages célèbres par le passé. De nos jours, il est assez facile d'inventer de nouveaux mots. Ils jaillissent dès que l'on voit ou ressent quelque chose de nouveau. Mais on ne peut utiliser un mot complètement neuf dans une langue ancienne à cause de ce fait évident mais mystérieux. Un mot n'est pas une entité unique et distincte. Il fait seulement partie d'un ensemble d'autres mots. En effet, un mot n'en est pas un tant qu'il ne fait pas partie d'une phrase. Les mots s'appartiennent entre eux. Combiner de nouveaux mots à de vieux mots est fatal pour une phrase. Pour utiliser correctement de nouveaux mots, il faudrait inventer une nouvelle langue. Et cela, pour l'instant, et même si nous y viendrons, ce n'est pas notre affaire. Notre affaire est de voir ce que l'on peut faire de la langue anglaise telle qu'elle est maintenant. Comment pouvons-nous ordonner de vieux mots autrement pour qu'ils survivent et créent de la beauté, pour qu'ils disent la vérité? Telle est la question.
Voilà, 1937, Virginia Woolf, avec cette voix et cet accent, si particulier, hein, Charles Dantzig.
Si gratin. Et vous remarquez, d'ailleurs, j'avais jamais fait attention à la fin de ses paroles dans cet enregistrement. C'est là qu'on remarque le grand humour de Virginia Woolf dont nous n'avons pas encore parlé, mais c'est qu'elle finit sa dernière phrase et that is the question. Et elle reprend évidemment Shakespeare et elle fait une citation d'une grande tragédie de Shakespeare et je pense que c'est tout à fait intentionnel de sa part, car il y a aussi cette ironie et cet humour chez Virginia Woolf, qui se remarque d'ailleurs dans la forme de ses phrases, ou qui rebondissent toujours par une... Elle pose une proposition, une virgule, et elle rebondit par une petite déception qui amoindrit l'emphase qui aurait pu se produire.
En un mot, Charles Dantzig, pourquoi dédier une notice au personnage de Dick Bonamy, de la Chambre de Jacob, dans votre dictionnaire égoïste de la littérature mondiale, qui était loin d'être le personnage principal?
Parce que justement, c'est un personnage par écho, et qu'il y a beaucoup de personnages de Virginia Woolf qui sont vus à travers des miroirs, à travers autre chose, et parfois les personnages principaux chez elle n'est pas le personnage principal. Et ce Dick Bonamy, je le trouve très touchant car c'est un homme dont on se rend compte sans qu'elle le dise qu'il est gay et qu'il est amoureux de Jacob sans le dire et que toute sa souffrance a été là. Et il y a une phrase qui résonne comme un coup de triangle dans tout le roman et qui signale à mon avis que le vrai sujet du roman c'est ça.
Marie Dariussec vient de retraduire un lieu à soi de Virginia Woolf, cette idée du lieu à soi, de la chambre à soi. Est-ce qu'elle vous a aidé à trouver le vôtre, la vôtre, Emmanuel Favier, Virginia Woolf?
Oui, c'est une expression qui est très porteuse et qui est très qui accompagne beaucoup et qui permet de très concrètement, le fait qu'elle passe par des données matérielles très concrètes, c'est la même chose dans Trois Guinées. Aide finalement, permet de sortir d'une espèce d'abstraction, de réflexion plus ou moins passionnée sur l'égalité homme-femme, sur toutes les injonctions et toutes les oppositions qu'on peut faire entre hommes et femmes qui seraient de nature intrinsèque, voilà, de sortir de ces questions-là, d'être vraiment très concret et évidemment, on le transpose aujourd'hui à des situations différentes, puisque être une femme et gagner son argent n'est plus du tout une exception aujourd'hui, en tout cas dans nos milieux et nos géographies. Mais ça continue d'être aidant, ça continue d'accompagner, ne serait-ce que parce que on s'autorise à... Il y a encore la notion de s'autoriser à avoir un lieu, à avoir un espace.
Même un lieu physique, matériel, mais peut-être aussi un espace mental.
Et un espace mental, et c'est vraiment une des choses sur lesquelles il faut encore d'ailleurs pas mal travailler. Mais la question de l'autorisation est toujours brûlante. Souvent par intégration des injonctions et des interdictions et des illégitimités par les femmes elles-mêmes. Mais je trouve que c'est encore très très d'actualité.
Merci beaucoup à vous, Emmanuel Favier. Virginia, votre roman vient de paraître chez Albin Michel. Merci, cher Charles Dantzig. C'est pas facile à dire. Merci, cher Charles Dantzig. Vous restez avec nous pour évoquer votre dictionnaire égoïste de la littérature mondiale qui vient de paraître chez Grasset. Restez avec nous jusqu'à 13h30, dont pour la deuxième partie de la Grande Table qui arrive après le journal de Thomas Cluzel.